Bienvenue, merci d'être assez devant. C'est vrai que c'est plus sympathique pour l'orateur, notamment, de voir des gens bien rassemblés plutôt que des gens dispersés. Je suis réjoui d'accueillir à nouveau Philippe de Corvey parmi nous ce soir pour ce thème du réveil méthodiste avec. Le nom m'échappe. Ben oui, Wesley, ben voilà. Le protagoniste principal de cette histoire qui va certainement être passionnante. Je vais sans autre commencer par la prière pour laisser ensuite toute la place à Philippe de Corvey. Et ensuite nous entrerons dans cette soirée. Je vous invite à prier. Merci notre Dieu, notre Père, de cette possibilité de nous réunir ce soir en ta présence, aussi en la présence de notre frère Philippe de Corvey. Nous voulons, Seigneur, être attentifs de nous des cœurs attentifs pour cette histoire de l'Église, pour ce réveil, pour tout simplement ton œuvre parmi les hommes, parmi l'histoire, qui nous rappelle combien tu es un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui prend soin aussi des hommes, qui fait progresser l'Évangile. Merci Seigneur de toucher les cœurs. Nous voulons être aussi interpellés par cette histoire, non pas simplement nous souvenir, mais voilà, simplement aussi être interpellés pour nous aujourd'hui. Qu'attendre, que vivre, quelle image avons-nous de toi et de ton rôle et de ton action parmi nous. Alors merci Seigneur pour cette possibilité d'apprendre quelque chose ce soir. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Voilà Philippe, je te laisse la place.
Voilà, alors on est de nouveau à pied d'œuvre pour une soirée comme celle-ci sur le réveil méthodiste, hein, avec le grand réveil méthodiste en Angleterre et le réveil en Amérique, qui est à la fois différent et un peu semblable, que les Américains appellent « the Great Awakening », hein, avec le fameux prédicateur Jonathan Edwards, où on compte que 20% de la Nouvelle-Angleterre avait fait l'expérience de la conversion. Jonathan Edwards était un prédicateur très différent des méthodistes, il était un calviniste strict, et ses sermons étaient écrits, il écrivait tout, et puis il était très myope, il était en chair, alors il lisait ses sermons comme ça, avec une bougie pour éclairer la nuit, et puis les gens se convertissaient, tombaient par terre, hurlaient en disant « mon péché », et ensuite hurlaient de joie quand ils s'étaient convertis. C'était assez extraordinaire, hein, Jonathan Edwards. Hein. Et donc avec ce grand réveil en Amérique et en Angleterre, nous touchons un mouvement, enfin le mouvement qui a le plus influencé le protestantisme après la Réforme. Mais comme c'est un mouvement essentiellement anglo-saxon et moins théologique que la Réforme, il est peu connu dans nos pays et parfois méprisé, surtout dans les facultés de théologie. Il y a quelques années, apparu à Genève un ouvrage intitulé « Genève protestante en 1831 ». C'est un ouvrage qui est apparu il y a peut-être 15 ans. Et c'est 1831, c'est la grande époque des combats théologiques. On verra ça la semaine prochaine, la prochaine fois avec le réveil de Genève, hein, où entre le réveil et l'Église libérale, hein, il y a eu des combats assez homériques. Hein, et c'est sur la couverture de cet ouvrage paru donc il y a quelques années et la reproduction d'une caricature d'Adam Töpfer, le père de Rodolphe Töpfer, hein, qui s'intitule « La machine à broyer les écritures », hein, où l'on voit d'un côté un curé catholique, de l'autre côté un pasteur méthodiste, ensemble, unis, hein, pour déchirer les principes de l'Église réformée de Genève. Hein, car l'Église méthodiste et le méthodisme et le réveil méthodiste étaient considérés à cette époque comme l'ennemi de l'Église protestante, au même titre et même pire que l'Église catholique. Alors on n'en est plus là aujourd'hui, heureusement, mais je pense, et c'est dans ce sens-là que c'est intéressant d'étudier ça aujourd'hui, qu'il en reste toujours quelque chose dans le dialogue parfois difficile entre les églises évangéliques et les églises dites officielles. Parce que les églises évangéliques ont été profondément influencées par le réveil méthodiste, l'église officielle aussi, mais quand même beaucoup moins. Je crois d'autant plus important de connaître et de comprendre ce réveil donc méthodiste, notamment dans ce dialogue intra-protestant, notamment dans cette année Calvin. Je crois que pour ça c'est très 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 important. Comme le dit un historien d'ailleurs français, je cite, c'est se condamner à ne rien comprendre au protestantisme britannique, à celui des États-Unis et à nombre de jeunes églises nées du mouvement missionnaire des 19e et 20e siècles que d'ignorer le style et les institutions que Wesley leur a imprimées, plus ou moins profondément, certes, en leur donnant la notion de réveil, de souci, le souci d'évangélisation, les victimes des mutations économiques et sociales et ce qu'on pourrait appeler une puissante démocratisation de la sainteté chrétienne. C'est pourquoi cet historien qui s'appelle Lovsky n'hésite pas à parler de Wesley, le fondateur du méthodisme, comme le troisième des grands réformateurs qui ont façonné le protestantisme. Je crois que ça c'est très important. Il n'est pas le seul d'ailleurs à dire cela. Je crois que le grand historien Bernard Cotteret, qui est un spécialiste de Calvin d'ailleurs, parle des trois grands réformateurs, Luther, Calvin, Wesley. Et je pense que cette affirmation est importante, elle nous étonne peut-être surtout nous en Suisse, parce que quand on parle des trois grands réformateurs, chez nous on dit toujours Luther, Zwingli, Calvin. Mais la réforme a donné naissance à deux mouvements d'église, l'église luthérienne et l'église réformée. Et l'église réformée est issue de la pensée et de Zwingli et de Calvin. Il y a eu d'ailleurs un consensus qu'on appelle le consensus Tigurinus, parce que c'était le nom latin pour Zurich, qui était un consensus entre Calvin et le successeur de Zwingli à Zurich, Bullinger, qui ont fait que les deux églises se sont réunies. Et les églises réformées sont, c'est à la fois le courant de Zwingli et le courant de calvinien. Et ensuite le courant méthodiste, qui est le courant plus dans le sens d'évangélisation. Wesley, donc, va être à l'origine de ce troisième courant, moins théologique, certes, mais plus porté vers une piété pratique, populaire, vers une évangélisation des masses. Il va donner au protestantisme, avec son génie tout anglais d'être pratique, un accent missionnaire, populaire, démocratique, qui va influencer le protestantisme mondial durablement, même ceux qui ne sont pas méthodistes. Je crois que on peut dire que nous autres évangéliques, nous sommes héritiers à la fois de la réforme et du méthodisme. On ne peut pas être évangélique sans être un peu un brin méthodiste. La preuve, c'est que les premiers gens, on verra ça la prochaine fois, les gens du réveil au siècle dernier, on les appelait des méthodistes. Alors que César Malan et Louis Gossen, c'était des pasteurs de l'église, de la vénérable compagnie des pasteurs de Genève, mais c'était des méthodistes parce qu'ils prêchaient la conversion. Wesley n'a pas voulu enseigner autre chose que ce qu'enseignaient les réformateurs. Alors c'est vrai qu'il avait de graves problèmes avec la prédestination, mais il n'est pas le seul, on en reparlera. Mais il a enseigné et il a voulu rien d'autre que le salut par la grâce, que le salut par la foi et que l'autorité de l'Écriture, les trois fameux sola de la Réforme. Mais, et c'est sa contribution essentielle, il a tourné l'Église vers l'action et l'évangélisation. l'évangélisation des masses, notamment. Quand on pense, il parlait, et pas lui seul, c'est Whitfield aussi, il parlait en plein air à des foules jusqu'à 40 000 personnes. On se demande ce qu'elles pouvaient entendre, hein, d'ailleurs. Et c'était à une époque charnière du début de l'industrialisation. Hein, et il a entraîné l'Église aussi dans l'action sociale, car il a toujours eu un très grand souci des pauvres. Il était d'ailleurs d'une extrême générosité lui-même. Hein, et il fut un des rares et des plus acharnés ennemis et adversaires de l'esclavage. Alors que c'était admis par la société, Wesley s'y est opposé de toutes ses forces. La dernière lettre qu'il a écrite, qu'on a de lui, qui était écrite, je crois, la veille de sa mort, c'est une lettre qu'il écrit à Lord Wilberforce, le grand apôtre contre l'esclavage, pour l'encourager dans sa lutte contre l'esclavage. Il dit même des choses très fortes, il dit que périssent nos colonies en Amérique si c'est au prix de l'esclavage. Mais ce réveil qui a bouleversé l'Angleterre va naître dans un pays en pleine crise spirituelle, on pourrait même dire en voie de déchristianisation avancée. Au milieu du XVIIIe siècle, hein, l'Angleterre, qui était la première des nations européennes, vit les débuts de la révolution industrielle. Je cite ici un certain nombre d'historiens. Les villes se gonflent d'une masse d'ouvriers sous-alimentés. Les mines attirent tout un prolétariat surmené. Le résultat, la prolétarisation et la paganisation des habitants des campagnes transplantés dans les taudis des nouvelles cités minières ou manufacturières. Le djinn, l'effort trop long et trop mal payé, la promiscuité, les épidémies, le travail harassant poursuivi dès l'enfance, les enfants travaillaient dès l'âge de 5 ans, autant de raisons qui aigrissaient les nouveaux ouvriers. Quant à leurs besoins moraux et spirituels, nul n'y songeait. Le djinn avait été inventé en 1684. Et un demi-siècle plus tard, l'Angleterre en consommait 7 millions de gallons. Les marchands sur leurs enseignes, je cite ici l'écrivain français Hippolyte Taine, qui n'est ni un théologien, mais qui est un écrivain qui a visité l'Angleterre, et voici ce qu'il dit. Les marchands sur leurs enseignes invitaient les gens à venir s'enivrer pour 2 sous. Pour 4 sous, on avait de quoi tomber ivre mort. De plus, la paille gratis. Le marchand traînait ceux qui tombaient dans un cellier où ils pouvaient cuver leur eau de vie. On ne pouvait traverser les rues de Londres sans rencontrer des misérables, inertes, insensibles, gisant sur le pavé et que la charité des passants pouvait seul empêcher d'être étouffé dans la boue ou écrasé sous les voitures. Voilà ce que dit Taine dans son Histoire de la littérature anglaise. La situation était telle que Montesquieu, l'écrivain français, visitant le pays, écrivait « Point de religion en Angleterre ». Quant à Voltaire, dans ses fameuses lettres anglaises, il écrit, je cite, « On est si tiède en Angleterre qu'il n'y a plus guère de fortune à faire pour une religion nouvelle ou renouvelée. » Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas prophète. Mais c'était ça avant l'arrivée de Wesley et de ses amis. Et c'est cette situation qu'ils vont connaître. On y reviendra, notamment avec Whitfield, le troisième grand homme du méthodisme. Il y avait pourtant des gens qui soupiraient, bien sûr, comme toujours. L'archevêque Layton disait, donc l'archevêque anglican, on est dans un pays, dans un contexte, quand je parle d'évêque et d'archevêque, c'est des évêques, des archevêques anglicans, pas catholiques. L'archevêque Layton disait, l'Église n'est qu'un squelette sans âme. Quant à l'évêque Burnett, il s'écriait, je suis dans ma 70e année, Et avant de mourir, je veux parler en toute franchise, c'est avec la plus vive souffrance que j'entrevois la ruine imminente qui menace l'Église. C'est donc sur ce terrain-là, dans cette Église-là, c'est cette situation-là que vont connaître les protagonistes du réveil. Hein. C'est un peu la situation qu'on voyait mercredi dernier avec les paroisses des montagnes de la Drôme, hein, mais à l'échelle d'un pays tout entier. Et c'est souvent ainsi d'ailleurs. Je crois que là, c'est une chose qu'on pourrait remarquer, on le verra aussi la prochaine fois. Dans la Bible aussi, le grand réveil avec le roi Ézéchias, hein, c'est dans le 2 Chroniques chapitre 28, vient juste après le règne du roi Achaz, qui a été un roi épouvantable, qui, dit la Bible, hein, faisait passer ses enfants par le feu, c'est-à-dire qu'il immolait ses propres enfants au dieu Moloch. Hein. On verra en Tunisie, d'ailleurs, les restes du cimetière hein, où on sacrifiait les enfants au dieu phénicien. Hein. Il y a un cimetière où il y a 70 000, à Carthage, hein, il y a 70 000 hein, enfants sacrifiés au dieu, qu'on appelle le Tophet. Et Jérémie tonne contre le Tophet de Jérusalem, parce qu'on faisait ça à Jérusalem sous le roi Achaz. Hein, et c'était donc une paganisation, mais c'est juste après cela que vient le grand réveil d'Ézéchias. Et le deuxième grand réveil qui est dans la Bible, hein, c'est le réveil avec le roi Josias, hein, qui vient juste après les règnes de Manassé et de Amon, qui ont été des rois épouvantables, pire encore qu'Achaz. Hein. Et souvent, hein, soit dans la Bible, soit dans l'histoire de l'Église, hein, le réveil vient après des périodes extrêmement douloureuses. Hein. C'est bien qu'étudier les réveils dans l'histoire de l'Église, c'est à la fois douloureux et encourageant. C'est douloureux parce qu'on voit dans quel état a été et parfois l'Église, hein, mais aussi encourageant car ça nous montre hein, que le réveil est toujours possible. Même dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, même après le règne d'Achaz ou le règne de Manassé et d'Amon, hein, comme le disait le titre d'un ouvrage américain paru il y a quelques années, « Dieu n'enterre pas les églises mortes hein. ». Non, Dieu n'enterre pas les églises mortes, il les réveille. C'était vrai pour les paroisses de la Drôme, hein, c'était vrai pour les églises d'Angleterre au XVIIIe siècle, c'est vrai aussi pour l'église de Genève aujourd'hui. Et face à un certain découragement hein, que je ressens chez bien des fidèles et bien des pasteurs hein, qui se disent « mais c'est difficile hein, ». L'histoire du réveil vient nous dire hein, et nous redire un formidable encouragement. Hein. Le réveil est possible, quelle que soit la situation de nos églises ou de la société. Elle ne pouvait pas sembler plus désespérée que du temps de Manassé, et pourtant il y a eu Josias. Elle ne pouvait pas sembler plus désespérée que dans l'Angleterre, la première moitié du XVIIIe siècle, et pourtant il y a eu ce grand réveil, le plus grand réveil de l'histoire de l'Église, en tout cas des Églises protestantes, hein, c'est celui du méthodisme au XVIIIe siècle. Alors la Genève du XXIe siècle, c'est plus la Genève de Calvin, c'est vrai, mais Dieu, lui, il est le même. Hein. Et Dieu veut et peut encore agir aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, Ézéchiel le dit bien, même des ossements desséchés peuvent revivre. Ézéchiel en doute d'ailleurs, ces ossements peuvent-ils revivre hein. Seigneur, tu le sais, mais il n'y croyait pas beaucoup. Hein. Mais pour cela, il faut des hommes consacrés. Et c'est aussi une des clés pour le réveil et un des enseignements du réveil méthodiste. Et c'est ce qui s'est passé en Angleterre. et notamment avec ces trois hommes qui sont à l'origine du réveil méthodiste. D'abord, bien sûr, John Wesley, qui a vécu de 1703 à 1791. Son frère, Charles Wesley, qui a vécu de 1708 à 1788. Et leur ami, George Whitefield, qui a vécu de 1714 à 1770. Tous les trois ont fait leurs études à Oxford. Donc ils avaient une bonne formation. Et Wesley, John Wesley, a même été professeur à l'université d'Oxford. Tout petit bien quand on dit parfois, oh, mais les méthodistes, c'est pas une grande théologie, on n'est quand même pas professeur à l'université d'Oxford, comme ça, en ayant trouvé son brevet dans une pochette surprise. Hein. Et ces trois ont formé, d'ailleurs c'est surtout Charles, un petit groupe d'étudiants qui cherchaient à vivre une vie de piété et de sainteté et à lire la Bible d'une manière méthodique. D'où les autres étudiants les ont appelés, pour se moquer d'eux, les méthodistes. Hein. Et ce nom leur est resté, comme toujours. C'est un nom pour se ficher d'eux. Hein. Mais ils l'ont gardé. Ce club qui s'appelait, qui n'a pas été un groupe nombreux, ils n'ont jamais été plus de 14 ou 15. Hein. C'était des étudiants. Ça a été créé après que John Wesley ait fait ses études, mais il l'a rejoint après coup, alors qu'il était déjà professeur. Et c'était un club qu'ils ont appelé le Holy Club, hein, le club sainteté, hein, et qui cherchait quelque chose dans cette situation quasi désespérée de l'Église, hein, pour vivre une vie de sainteté. Mais c'était un club un peu ritualiste, mais qui cherchait vraiment la sainteté et la parole de Dieu et la lecture de la Bible. Et la plupart étaient des étudiants, notamment Whitefield, qui était le plus jeune. Et le premier à se convertir vraiment était le plus jeune d'entre eux, George Whitefield. Et il commença très vite, après sa conversion, à témoigner et à prêcher, et à se révéler très vite comme un grand prédicateur. Il a certainement été le plus grand orateur du XVIIIe siècle et un des plus grands prédicateurs que l'Église chrétienne ait connu. Un acteur de l'époque, qui s'appelait Garnick, qu'il admirait beaucoup, affirmait que Whitefield pouvait faire pleurer ou trembler ses auditeurs rien qu'en prononçant le mot « Mésopotamie ». Bon, aujourd'hui, on tremble en disant Mésopotamie, mais pour d'autres raisons. Et l'historien Hume cite la conclusion d'un des sermons de Whitefield qu'il estime être un des modèles du genre. Je cite, c'est du Whitefield, ça. « L'ange qui est ici présent est prêt à quitter notre terre pour prendre son effort vers les cieux. Partira-t-il sans porter la nouvelle qu'un seul pécheur d'entre cette multitude a été retiré de sa voie de perdition ? » Puis ajoute Hume, levant au ciel des yeux remplis de larmes, Whitefield s'écria « Arrête, Gabriel, arrête ! Ne franchis pas les portiques sacrés avant de pouvoir annoncer qu'une âme s'est convertie à Dieu. » Et cette apostrophe, dit Hume, était accompagnée de gestes si animés et cependant si naturels que tout ce que j'ai jamais vu ou entendu ne peut lui être comparé. Ça, c'était le Whitefield, l'orateur, hein, le tribun. C'est lui le premier qui va commencer à prêcher, notamment à des foules immenses. Hein. Et puis Charles Wesley est le poète du méthodisme. Hein. Il a doté ce grand mouvement religieux de l'une des plus belles et des plus riches hymnologie qui soit, le Wesleyan Hymn Book, qui compte 627 hymnes écrits par Charles Wesley, ce qui ne représente d'ailleurs qu'à peine 10% de tous les cantiques qu'il a écrits. Il en a écrit plus de 6000. Et on peut dire que Charles Wesley a fait chanter le peuple de Dieu comme nul autre. Et c'est une nouvelle sorte de chant qui va entrer dans l'église, des chants entraînants, des chants joyeux, des chants centrés sur la joie, du salut, sur l'œuvre de la croix. Hein. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, malheureusement, très peu de ces chants ont été traduits en français ou adaptés en français. Alors qu'ils sont aujourd'hui encore de grands classiques hein, dans les églises anglophones, toutes les églises anglophones, même dans l'église anglicane, on chante les chants de Charles Wesley aujourd'hui encore. En français, je n'en connais que deux, mais que vous connaissez aussi, je pense, et qui sont significatifs. Le premier a été composé à l'occasion du premier anniversaire de sa conversion. Et c'est ce fameux chant « Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix ». Là, c'est le premier anniversaire de sa conversion, c'est ce chant-là que Charles Wesley a écrit. Et le deuxième, je pense que ça éveillera aussi de vieux souvenirs à certains, « Miséricorde insondable, hein, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés ». Ça, c'est les deux chants en français, pas composés, mais écrits, des paroles écrites par Charles Wesley. Je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que les chants de Wesley marquent un tournant dans l'hymnologie de l'Église, par rapport aux psaumes huguenots qu'on chantait avant, et qui sont bien sûr, ou aux chorales luthériens. Hein. Avec lui, c'est le chant joyeux des rachetés, hein. La louange de l'œuvre de la croix. Hein. C'est aussi le chant de la joie de l'expérience chrétienne. Hein. Voilà, hein. Seigneur, que n'ai-je mille voix, c'est le chant « je hein, ». Je loue le Seigneur parce qu'il m'a sauvé. Parce que Dieu peut-il tout pardonner absolument. Oui, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Hein. Je ne sais pas si c'est l'expérience que ceux qui sont allés en Angleterre ont faite, mais moi, je suis allé plusieurs fois en Angleterre quand j'étais agent de la Ligue. Alors bien sûr, la Ligue est une œuvre très britannique. Mais j'ai été profondément frappé et réjoui de voir la joie de la piété anglaise. Hein, c'est trop, la piété anglaise, en tout cas chez les évangéliques, en tout cas dans la Ligue, hein, c'était une piété extrêmement joyeuse, hein, jusque chez les Anglicans, parce que la Ligue en Angleterre, c'est à la fois frère d'un côté et anglican de l'autre. Pour les 100 ans de la Ligue, hein, c'est l'archevêque de Canterbury qui a présidé un culte à la cathédrale de Londres. Hein, j'entends, c'est très officiel, hein, mais très, très évangélique aussi. Hein. Je me demande si cette joie de la piété anglaise n'est pas due en partie du moins au chant de Charles Wesley, hein, qui a fait chanter la joie du salut hein, au peuple chrétien. Et puis le troisième homme, bien sûr, de ce triumvirat exceptionnel, et le plus important d'entre eux, bien sûr, c'est John Wesley. Il était moins grand orateur que Whitfield, il était moins grand poète que son frère Charles, mais il est cependant le chef du mouvement. C'est un organisateur génial et un prédicateur infatigable. Il a parcouru l'Angleterre pendant plus de 50 ans à cheval, se levant tous les matins à 4 heures du matin, prêchant une première fois à 5 heures du matin aux ouvriers avant leur travail et visitant sans cesse hein, les convertis qu'il rassemble dans ce qu'il appelle des sociétés locales, l'équivalent d'une paroisse si vous voulez, et divisé, et c'est ça, c'est une invention géniale, en ce qu'il appelle des classes, c'est-à-dire des groupes, hein, des églises de maison, si vous voulez. Il a inventé les églises de maison, hein, et dont les membres sont munis d'une carte à renouveler chaque trimestre. Donc on avait un contrôle, il y avait un suivi. Hein, et il y a chaque classe avait un chef de classe, hein, donc il y avait un suivi, il y avait un sentiment d'appartenance. Et les sociétés d'une région formaient un circuit hein, que Wesley parcourait inlassablement, hein, et qui permettent encore d'avoir, encore une fois, un sentiment d'appartenance. Personne n'était ainsi laissé tout seul. La foi pouvait se fortifier au contact des autres. On n'allait pas qu'au culte le dimanche matin, simplement en s'asseyant et puis en écoutant, comme disait une fois les paroissiens à Maurice Ray, qui les encourageait à aller au culte. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire dans vos rangs de poireaux? Et c'est vrai qu'au culte, parfois, on est assis comme ça, les uns à côté des autres, comme des poireaux plantés dans un champ. On se lève que pour chanter. On lève le bras que pour mettre son porte-monnaie. Mais il y avait dans chez les méthodistes ce sentiment ou la classe où il y avait une interactive où on parlait. Wesley a parcouru ainsi en moyenne 7000 km par an, principalement à cheval, et on a compté qu'il a prononcé dans sa vie plus de 40 000 sermons. Donc avec un organisateur hors pair, un orateur de génie et un grand poète, le méthodisme va bouleverser non seulement l'Angleterre, mais aussi l'Amérique, qui était à ce moment-là encore une colonie anglaise. Whitfield fit 7 voyages outre-Atlantique, et c'est surtout là-bas d'ailleurs que son œuvre a été importante, encore plus qu'en Angleterre. C'est d'ailleurs en Amérique qu'il est mort, d'une crise cardiaque, d'une crise d'asthme. Et il avait encore prêché la veille de sa mort. Et par l'Angleterre et l'Amérique, on peut dire que la prédication méthodiste revivaliste a influencé l'Église protestante tout entière, particulièrement les milieux évangéliques. Pour prendre un simple exemple, Billy Graham n'est pas méthodiste puisqu'il est baptiste, mais Billy Graham serait inimaginable s'il n'y avait pas eu Wesley et Whitfield avant lui. Il est un fruit lointain de la prédication méthodiste. Et je crois qu'il y a là une première conclusion qu'on peut tirer. Dieu travaille par des hommes et des femmes, bien sûr. Comme disait un prédicateur, quand je dis les hommes, j'embrasse toutes les femmes. Dieu travaille avec des hommes et des femmes plus que par des institutions. L'institution, au contraire, s'opposera de toutes ses forces à l'action de ces revivalistes méthodistes. On y reviendra. Le réveil n'est pas venu par des organigrammes, par des plans, par des comités, par des circulaires émanant de je ne sais quelle commission, mais par des hommes consacrés. Je crois que c'est la même chose aujourd'hui. C'est bien, on peut pas ne pas avoir d'institution, mais Dieu travaille avec des hommes. La deuxième conclusion qu'on peut tirer du réveil méthodiste, surtout en pensant à la vie de John Wesley, c'est l'importance des mères. On ne peut pas parler de John Wesley sans mentionner sa mère, Suzanne. C'est elle qu'on appelle aujourd'hui encore la mère du méthodisme. Car elle eut sur ses enfants, et en particulier sur John, une influence déterminante. John Wesley ne serait probablement jamais devenu le réformateur de l'Angleterre qu'il a été sans l'influence de sa mère Suzanne. C'est elle, beaucoup plus que son père, qui pourtant était pasteur, un pasteur anglican, bien sûr, comme l'avait été son grand-père et son arrière-grand-père, mais c'est sa mère, Suzanne, qui façonnera l'âme énergique et la piété de ses enfants, et tout particulièrement de John. Suzanne Wesley, tenez-vous bien, mesdames, elle eut 19 enfants, dont 10 survécurent, et chaque semaine, elle consacrait un entretien d'une à deux heures à chacun de ses enfants. Et de l'enfance de Wesley, on raconte souvent l'épisode suivant. Le 9 février 1709, vers minuit, le feu se déclare à la maison de son père. quand on s'en aperçoit, le feu était déjà très puissant. Le père de Wesley, alors, se précipite dans la chambre où couchaient les enfants et parvint à les faire échapper par une fenêtre ou une porte devant le jardin. Mais en comptant le nombre des rescapés, on se rendit compte qu'il en manquait un. Le petit John, âgé de 6 ans, qui était resté endormi. Son père essaya à nouveau de pénétrer dans la chambre. Impossible, hein, le feu était déjà beaucoup trop important. Alors il se jette à genoux et recommande à Dieu l'âme de son enfant. C'est à ce moment que le petit John se réveille et va à la fenêtre. On fait alors une échelle humaine pour aller le chercher et on arrive à l'attraper et à le sauver au moment où le toit de la maison s'effondre. Et Wesley gardera toute sa vie le souvenir de cet événement quand il avait 6 ans. Sous l'un de ses portraits, il fit graver cette inscription « N'est-ce pas un tison arraché du feu ?» hein, d'après le texte de Zacharie, chapitre 3, verset 2. Et sa mère fut fortement impressionnée. Et elle veilla tout particulièrement sur l'âme de cet enfant qui, comme elle le dit elle-même, Dieu avait protégé avec tellement d'amour. Et bien des années plus tard, quand Wesley parcourait l'Angleterre, il passe un jour près de là où était sa mère et il lui écrit en disant « Est-ce que tu pourrais m'accorder un entretien d'une heure comme autrefois quand j'étais petit, je viendrai tel jour à telle heure ?» Et l'exemple de Susan Wesley hein, est souvent cité comme un encouragement pour toutes les mamans. Elles peuvent préparer le réveil de demain dans leur amour et leur prière pour leurs enfants. On cite aussi, bien sûr, l'exemple de Sainte Monique, la mère de Saint Augustin. Hein. Dans la première partie de sa vie, hein, Saint Augustin n'était pas encore le saint qu'il a été après, au contraire. Hein. Il a mené joyeuse vie, hein, le plus illustre des pères de l'Église latine, hein, et menait une vie de dissipation et de paganisme, ou plutôt, il faisait partie de la secte des manichéens, et il était tout à fait étranger au christianisme, au grand désespoir de sa mère, qui priait beaucoup pour la conversion de son fils, elle était chrétienne, et qui pleurait beaucoup, et un jour désespéré de voir qu'il ne se passait rien, que son fils Augustin était toujours le même païen qu'il était, ou ancré jusqu'au cou dans sa secte manichéenne, elle va trouver un évêque, et lui raconte et pleure devant lui de sa souffrance à son fils, et l'évêque lui répond « Va en paix, il est impossible que le fils de tant de larmes soit perdu. » On cite souvent cette parole hein, à Sainte Monique. Et effectivement, d'ailleurs c'est Saint Augustin lui-même qui raconte ça dans ses fameuses confessions. Et en effet, quelques temps après, Saint Augustin s'est converti. Tant qu'il y aura des Sainte Monique et des Suzanne Wesley, hein, tant qu'il y aura des mères comme ces mères-là, le réveil est possible. Hein, et ainsi que le salut de nos enfants. Oui. Je crois qu'un deuxième enseignement du réveil méthodiste, parce qu'on ne peut pas parler de Wesley sans parler de sa mère, Suzanne, hein, sans parler de l'importance des mères. Oui, persévérer, quel que soit hein, la vie de vos enfants, vos prières ne sont pas inutiles, au contraire. Hein, il est impossible que le fils ou que la fille de tant de larmes soit perdu. Un troisième enseignement, je pense, du réveil méthodiste est ce que j'appellerais la contextualisation. Hein. Je veux dire par cela le fait d'incarner le réveil dans le contexte local. Le Holy Club, auquel Wesley a participé à Oxford, était en fait un groupe assez mystique, et même assez ritualiste, hein, très tenté par le ritualisme. Hein, et c'est la rencontre de Wesley avec le piétisme allemand et surtout avec les frères Moraves et le comte de Zinzendorf qui va donner une toute nouvelle dimension à sa vie. C'est d'ailleurs là qu'il va réellement se convertir. C'était en 1735. Wesley avait donc 32 ans, mais il était déjà pasteur consacré. Il allait en Amérique pour... C'était donc lors d'un voyage d'Angleterre en Amérique, et il allait pour évangéliser les colons, la nouvelle colonie de Géorgie, ainsi que les Indiens. Et sur le même bateau que lui, voyageaient aussi 26 Moraves allemands. Et Wesley fut profondément impressionné par l'attitude de ces gens. Lors d'une grande tempête où le bateau a failli chavirer, hein, tout le monde avait peur, Wesley le premier. Les seuls qui étaient tranquilles, qui chantaient, c'était pendant un culte, ils ont même pas interrompu leur chant, c'était les Moraves. Et Wesley fut tellement impressionné, fut attiré par la paix, par l'assurance de ces gens-là qui n'avaient pas peur de la mort. Et le lendemain de son arrivée en Amérique, il fit la connaissance d'un pasteur morave, pasteur Spangenberg, qui d'ailleurs deviendra le chef de l'église morave après la mort du comte de Zinzendorf. Et il lui demanda des conseils pour son action d'évangélisation des colons et des Indiens. Alors Spangenberg lui pose alors des questions directes, je cite. « L'Esprit de Dieu rend-il témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu ? Connaissez-vous Jésus-Christ ? » Wesley répond « Je sais qu'il est le sauveur du monde. » « C'est vrai, » répond Spangenberg. « Mais savez-vous qu'il vous a sauvé ?» Et Wesley répond « J'espère qu'il est mort pour me sauver. » Et Spangenberg lui raconte alors sa propre conversion, ce qui impressionna vivement Wesley, et lui fit comprendre qu'il lui manquait encore quelque chose. Et il note dans son journal, je cite, « Je suis en Amérique pour convertir les Indiens, mais qui me convertira ?» Et c'est à son retour en Angleterre, parce que cette mission fut un peu un échec, c'est à son retour en Angleterre, dans une réunion morave, justement, parce qu'il est tellement impressionné par les moraves, il dit, il y a là quelque chose, j'ai de la piété, je lis la Bible, mais il y a quelque chose que je n'ai pas et qu'ils ont eux, qu'est-ce que c'est? Je veux l'avoir moi aussi. Hein? Alors il va dans une réunion morave, il en parle souvent, dans une petite chapelle morave à Londres, et où il y a d'ailleurs, qui existe toujours aujourd'hui, il y a une plaque où on dit, c'est là que Wesley s'est converti. Et lors de la réunion dans cette chapelle morave, le prédicateur lit, simplement, c'est lit l'introduction de Luther à l'Épître aux Romains. Et c'est en entendant l'explication de Luther, de l'Épître aux Romains, que Wesley comprend enfin ce qu'est le salut par la foi. Et il dit tout en écoutant, je sentis mon cœur qui se réchauffait au-dedans de moi et je sais que j'étais sauvé. Hein? Et c'est là qu'il accepte et qu'il expérimente vraiment pour lui, hein, le salut par la foi, l'assurance du salut. Alors ayant reçu cette assurance et cette joie du salut par le ministère des Moraves, Wesley voulut les connaître de plus près. Hein? Alors il entreprit un voyage jusqu'en Allemagne. Vous savez, les Moraves avaient une communauté à Herrnhut, qui existe toujours d'ailleurs, tout à fait en Allemagne de l'Est. Aujourd'hui, c'est à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Et il voulait découvrir les richesses de cette communauté. Et effectivement, il est abondamment béni à Herrnhut, et beaucoup des idées de Wesley proviennent de là. Pourtant, au bout de quelques temps, Wesley se sépara des Moraves. Hein. C'est que le contexte, je crois que ça c'est très important, c'est que le contexte anglais du début de la révolution industrielle était tellement différent du contexte campagnard, luthérien, des moraves, qu'il a compris que ça, il y avait des choses qui jouaient pas, hein, et qu'il a au fond, qu'est-ce qu'il faut dire, anglicisé, contextualisé, adapté ce qu'il avait vu, certaines choses qu'il n'était pas forcément d'accord, mais il en a fait quelque chose d'anglais, hein. Il a compris qu'il pouvait pas simplement transplanter ce qui se vivait en Allemagne en Angleterre. Et je crois qu'il y a là aussi une leçon importante pour nous aujourd'hui. On ne peut pas reproduire sans autre ce qui se passe aux USA, en Corée ou au Brésil. Il y a des constances, certes, dans la prédication évangélique et dans le réveil, mais il faut aussi l'adapter au contexte local. On le verra d'ailleurs à propos du réveil de Genève la prochaine fois, qui est aussi venu par des anglo-saxons, par des anglais, même par des écossais d'ailleurs, mais très vite ce sont les genevois qui ont pris ça en main, et ça a pris un caractère local, c'est pas resté une sorte de chose étrangère, hein. Et le génie de Wesley, hein, c'est qu'il s'est inspiré des Moraves, hein, mais sans les imiter servilement. Il a su incarner le message du réveil dans un contexte anglais. Et je crois que c'est une cause de bien des désillusions, parfois ici ou parfois en Afrique. On essaye de reproduire, hein, des livres comme ça, church planting, il y a un pauvre pan en France ici, puis il y a des choses qui ne vont pas. Ou bien nous, hein, on fait la même chose en Afrique d'ailleurs. Hein. Et l'importance d'adapter au contexte, hein, culturel, spirituel, local, avec les fondements bien sûr, qui ne changent pas. Hein. Il y a des constantes, mais il faut contextualiser. Et c'est ce que Wesley a admirablement réussi. Un quatrième enseignement, je crois, du réveil méthodiste, c'est qu'il a fait éclater tous les schémas et que le réveil bouleverse toujours. Hein. Whitfield, comme les deux frères Wesley, tous les trois étaient des pasteurs anglicans, hein, consacrés. Hein. Ils avaient l'habitude de prêcher dans les églises. Hein. Mais leur prédication, surtout quand le réveil a éclaté, quand ils sont eux-mêmes devenus des évangélistes, hein, leur prédication ne plaisait pas beaucoup aux évêques anglicans devenus assez libéraux. Bristol, qui était à l'époque le grand port, notamment pour l'Amérique, parce qu'il voulait aller en Amérique, d'ailleurs il y est allé, je vous dis, il y est allé 7 fois. Et alors, en attendant le départ du bateau, il essaye de prêcher dans les églises, mais on les lui refuse toutes. Et alors on lui dit, mais puisqu'il a tellement envie de convertir les païens, puisqu'il voulait aller convertir les Indiens en Amérique, puisqu'il a tellement envie de convertir les païens, que ne va-t-il pas à Kingswood, disent les gens de l'endroit. Kingswood, qui était tout près de Bristol, était une nouvelle ville minière. Mais on avait construit pour les mineurs ni église, ni école. Aucun pasteur n'y avait été envoyé. De plus, dans les églises et les écoles de Bristol, on refusait les gens de Kingswood. Hein? C'était vraiment l'exploitation du prolétariat dans toute sa cruauté au premier temps de l'industrialisation. À Kingswood, ils vivaient comme des sauvages. Encore une fois, il n'y avait ni école, ni église, ni pasteur, ni rien. Que des ouvriers qui étaient accablés de travail dans les mines. Alors, aller à Kingswood, pourquoi pas? Whitfield relève le défi, et le samedi 17 février 1739, retenez cette date, Whitfield s'adresse à 200 mineurs en plein air, puisqu'il n'y avait pas d'église. Le lendemain, ils sont 2000. Chaque jour, le nombre augmente jusqu'à 20 000. Or, on est en février, hein, en plein air, en Angleterre. Hein. Et L'historien Lovski, toujours lui, souligne l'importance de cette date qu'il nomme l'an 1 de l'évangélisation moderne. C'est la première prédication en plein air. Et encore une fois, sans micro, 20 000 personnes en février, sans micro. On a de la peine aujourd'hui à imaginer la révolution que ça représentait à l'époque. Prêcher l'évangile en plein air, mais c'était un scandale. Même Wesley trouva cela étrange, et même pour lui, il a dit, mais c'est shocking. Alors, il perplexe, parce qu'il a confiance quand même dans son ami Whitfield, perplexe, il se rend à Bristol pour voir sur place ce qui se passait. Et pendant un mois, il hésite à entrer dans cette pratique. Mais sur les instances de Whitfield, d'une part, et voyant les conversions remarquables et authentiques qui se produisaient dans ses prédications, il se mit lui-même à prêcher en plein air. Et ce fut la première grande innovation du réveil méthodiste. Comme le dit un autre historien, Mathieu Lelièvre, sans la prédication en plein air, le méthodisme serait sans doute devenu une simple communauté piétiste, agissant sur des petites couches d'adhérents, mais sans action sur les masses. C'est ce qui va faire des prédicateurs méthodistes des prédicateurs populaires. Et une autre innovation, peut-être la plus révolutionnaire de toutes, c'est le développement du ministère et notamment de la prédication des laïcs. Ça aussi, c'était inimaginable. Et là encore, c'est pas venu d'un plan, c'est même pas Wesley qui a eu cette idée un beau jour, mais c'est venu par la force des choses. Et là encore, Wesley fut d'ailleurs très réticent à admettre cela. Comment peut-on faire parler, prêcher des laïcs, Il finit cependant par l'accepter, devant la nécessité, à cause des besoins immenses, des gens qui voulaient avoir écouté l'évangile et des gens qui s'étaient convertis qui avaient besoin de suivi, et puis le manque de pasteurs. Et aussi, bien sûr, devant l'évidente bénédiction qui reposait sur cette prédication, parce que très vite, ces convertis, souvent ces ouvriers, et qui s'étaient convertis, ont commencé à témoigner. On commence à témoigner en plein air, on commence à témoigner devant des petits groupes, et d'autres. Et il y a eu des conversions comme ça à la chaîne. Et venant du peuple, parlant le langage du peuple, connaissant le peuple, ils pouvaient parler au peuple d'une manière très, 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 très efficace. D'ailleurs, ce fut une des raisons du formidable développement du réveil méthodiste. Et plusieurs de ces prédicateurs, d'ailleurs, devinrent des prédicateurs à plein temps. D'autres restèrent simplement responsables de classe, comme je vous le dis, ces groupes de maisons. Ces hommes, souvent des laïcs simples et pieux, qui continuaient à exercer leur profession, mais qui consacraient leur temps libre à être le responsable d'une classe ou à faire de l'évangélisation, du colportage, dans les rues et en plein air. Donc, encore une fois, ces deux innovations, et on pourrait en citer beaucoup d'autres, s'imposèrent à Wesley et à ses compagnons. Elles ne viennent pas d'un plan préétabli, ça les a même bousculées. Le réveil bouscule toujours. Si vous ne voulez pas être bousculé, priez pas pour le réveil. Il bouscule nos structures, il bouscule nos traditions, il bouscule nos schémas. Si nous prions pour le réveil, soyons prêts à être bousculés. Et là où on s'y attend le moins d'ailleurs. Le réveil nous surprend toujours. Il faut non seulement être obéissant, mais il faut aussi être souple. Et un cinquième enseignement du réveil méthodiste, et non seulement du réveil méthodiste, mais de tout réveil ou presque, c'est qu'il suscite l'opposition. Dans la seule année 1739, l'an 1 donc de l'évangélisation moderne, on compte 20 pamphlets anti-méthodistes. L'évêque de Bristol convoqua Wesley et lui dit, je cite, « Monsieur, vous n'avez rien à faire ici. Vous n'êtes pas chargé de prêcher dans mon diocèse. En conséquence, je vous ordonne de le quitter sans retard. Wesley répond qu'il a été consacré ministre de l'Église d'Angleterre et non d'un diocèse particulier, donc de l'Église universelle. Il ajoute, je cite, « Si je manque à mon devoir et que tombe dans l'abîme une seule âme que j'eusse pu soustraire aux flammes éternelles, Dieu acceptera-t-il ce prétexte ? Seigneur, elle n'était pas dans ma paroisse. C'est pourquoi je regarde le monde entier comme ma paroisse. » Cette phrase qui est souvent citée comme la devise de Wesley, « Le monde est ma paroisse », traduit bien son zèle infatigable d'évangéliste et de missionnaire. Mais l'opposition n'est pas que verbale ou pamphlétaire. Elle se fit parfois violente. Wesley essuya personnellement 60 émeutes. Il est blessé 7 fois. En 1742, à Londres, on essaya de faire pénétrer un troupeau de vaches dans l'auditoire. Mais Wesley note dans son journal, les bêtes furent plus sages que leur maître. Quant aux prédicateurs laïcs, dont certains étaient itinérants pour aller justement, ils suivaient des circuits, c'est pour ça que ça s'appelait des circuits. On trouva un moyen pour les dissuader de prêcher, on les arrêtait pour vagabondage et on les enrôlait de force dans l'armée. Cette opposition ou ces émeutes furent parfois très violentes et il y eut des morts. C'est souvent ainsi quand le réveil éclate, dans quelque église que ce soit. Il y a une tension, parfois crucifiante, entre la vie nouvelle et les structures anciennes. Vouloir le réveil, c'est être prêt à souffrir. Et à souffrir parfois de la part de ceux qui nous sont le plus proches. Pour Wesley, c'était de ses collègues pasteurs anglicans. Enfin, un sixième enseignement, j'ai encore le temps de dire ça, oui peut-être, c'est que le réveil n'est pas le royaume de Dieu et qu'il y a parfois des rivalités, des oppositions au sein même de ceux qui prêchent le réveil. C'est ce qui est arrivé entre Whitfield et Wesley. Wesley n'aimait pas la doctrine calviniste de l'élection divine, ou si vous préférez, de la prédestination. Il l'a trouvé, selon ses propres termes, « very shocking ». Il était ce qu'on appelle un arminien, venant d'après un théologien hollandais qui s'appelait Arminius, et pas arménien, mais arminien, de Arminius, qui était un théologien hollandais, qui insistait sur le libre arbitre. L'homme est libre de se convertir ou de pas se convertir. Et il y a par conséquent une certaine coopération dans le salut entre la grâce de Dieu et la décision de l'homme. Ce qui est le danger d'amener une œuvre. Whitfield, au contraire, était très calviniste. Il prêchait aussi la conversion, bien sûr. Mais elle était un don de Dieu. Autrement, on en fait une œuvre. Tout est grâce. C'est Dieu lui-même qui suscite en moi le désir et la décision de l'accueillir. Et lors d'un voyage de Whitfield en Amérique, alors que Whitfield était en Amérique, Wesley publie un sermon dans lequel il défend avec une certaine ardeur les thèses arminiennes. D'Amérique, où il reçoit ce sermon, Whitfield lui répond assez vivement. Et comme toujours, les disciples des deux maîtres envenimèrent la situation, si bien qu'en 1741, Whitfield se sépara publiquement de Wesley. D'ailleurs, c'est pourquoi vous avez Dans le Pays de Galles, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est dans les églises, dans ces églises-là, au Pays de Galles, qui est né le réveil au début du XXe siècle, c'est les églises méthodistes calvinistes, qui sont fruits de Whitfield. Et cette querelle entre partisans et adversaires de l'élection, de la souveraineté de Dieu, n'a jamais été résolue dans le protestantisme. Et le réveil a toujours eu des partisans de l'un et de l'autre. On le retrouvera, on le verra encore mercredi prochain, on le retrouvera lors du réveil de Genève entre le calviniste César Malan et l'arminien Félix Neff, qui se sont échangés aussi des mots d'oiseau. Et la séparation entre les deux principaux orateurs du méthodisme est une histoire triste, certes, mais qu'il ne faut pas non plus exagérer. À la demande expresse de Whitfield, c'est Wesley qui présida son service funèbre commémoratif. À la vérité, ces deux hommes étaient au fond assez proches. Whitfield, qu'est-ce que voulait Whitfield ? Il voulait sauvegarder la souveraineté de Dieu. Il voulait éviter tout retour à la religion des œuvres, où la conversion étant une participation au salut deviendrait quelque part une œuvre humaine. Wesley, lui, voulait éviter toute passivité, tout ritualisme. Intéressant, parce qu'il avait été tenté par le ritualisme. Et en insistant sur la nécessité d'une décision personnelle. Et ces deux soucis sont légitimes. Est-ce que l'équilibre du réveil n'est pas dans cette tension qui est inhérente à la prédication chrétienne, à la fois la souveraineté de Dieu et la décision humaine, qui sont comme les deux extrémités d'un arc. Pour montrer que malgré leurs différences, ces deux hommes continuent à s'estimer profondément, on raconte l'histoire suivante qui est authentique. Une femme qui était une ardente partisane des thèses de Wesley vient le trouver et lui dit « N'est-ce pas, Monsieur Wesley, que nous ne verrons pas Monsieur Whitfield au ciel ?»« Bien sûr que non, » répond Wesley. « Ah, je savais bien que Whitfield n'irait pas au ciel. » Et Wesley dit « Mais je n'ai pas dit ça. Pourtant, vous venez de dire que nous ne verrons pas Whitfield au ciel. » « Justement, » répond Wesley, « voyez-vous, il sera tellement près de Dieu et il y aura tellement de monde autour de lui que j'ai bien peur que nous ne le verrons pas. » On cite souvent ça comme « même s'ils se sont disputés, ils se sont séparés, ils sont restés profondément amis, reconnaissant que leurs prédications avaient le même but. » Prêcher à la fois la souveraineté de Dieu et la nécessité de la décision humaine, n'est-ce pas le défi de tout réveil, aujourd'hui comme au XVIIIe siècle? On pourrait dire encore d'autres choses sur le réveil n'est pas le royaume de Dieu. Faut-il dire quelques mots sur le mariage de Wesley, qui a été un mariage catastrophique, et il s'est marié très tard avec une veuve, qui était terriblement soupçonneuse. Elle faisait jusqu'à 100 kilomètres pour s'assurer que son mari ne la trompait pas. Elle le battait, elle le tirait par les cheveux. Et au bout de 15 ans de mariage, je crois, un jour elle est partie, et il écrit dans son journal, elle est partie, elle m'a dit qu'elle ne reviendrait pas. Je ne l'ai pas délaissée, je ne l'ai pas renvoyée, je ne la rappellerai pas. Et ça a été... Alors, sans excuser Madame Wesley, ça ne devait pas être facile d'avoir un mari qui se lève tous les matins à 4 heures du matin, qui prêche tous les matins à 5 heures, mais enfin, je crois qu'en effet, là, ça a été une des erreurs de Wesley, ça c'est sûr. Donc, le réveil n'est pas le royaume de Dieu. Il a aussi ses problèmes, et les hommes qui l'animent ont aussi leurs limites et leurs défauts, mais c'est quand même le grand espoir de nos églises, en tout cas le mien. Et nous prions pour qu'aujourd'hui, comme au XVIIIe siècle, hein, Dieu nous donne des hommes et des femmes consacrés. Hein. Des mères, comme Suzanne Wesley. Hein. Une volonté de contextualisation. Hein. Un esprit prêt à tous les bouleversements, tous les chambardements que le Saint-Esprit, pas notre imagination, mais que le Saint-Esprit apporte. Nous donne une capacité de résister à l'opposition qui ne manquera pas, hein, et des hommes et des femmes, hein, qui sont ce qu'ils sont, avec encore une fois leurs défauts et leurs limites, mais qui, au-delà du réveil, cherchent la venue et le retour de Jésus, car en fait, le réveil, c'est qu'une étape, ce que nous cherchons par-dessus tout, hein, c'est cette prière de l'Apocalypse, Amen, viens. Seigneur Jésus, ça sera le grand et définitif réveil. Amen.
Merci beaucoup Philippe. Voilà, un temps de questions. Ça fait là des interrogations. J'en ai peut-être une si je te permets de commencer.
Oui, oui.
Tu as utilisé le mot de revivaliste. Est-ce que tu peux juste dire en quelque chose ce que.
Un revivaliste, c'est un homme qui prêche le réveil.
Voilà.
Parce que, enfin, oui, c'est peut-être un anglicisme, puisqu'en anglais, revival, donc revivaliste, hein, c'est quelqu'un de réveil. Hein. Chez nous, il y a une confusion. Comme le disait l'ancien responsable du conseil synodal vaudois, lors des adieux de Maurice Ray, il a commencé son intervention pour remercier, lorsque Maurice Ray a pris sa retraite, il est venu pour le remercier, puis il lui a dit, nous sommes un pays de montres neuves, et de vieux réveils. Alors, c'est vrai, en français, il y a une confusion, mais revivaliste, au fond, c'est un mot. C'est un anglicisme, si on veut. C'est du franglais.
Alexandre, on voit par-ci par-là en France des églises méthodistes. Tu peux expliquer d'où elles viennent, si c'est des implantations anglo-saxonnes ou.
En France, hein, c'est ça. Oui, en France, il y a deux types d'églises méthodistes, qui se sont unies. Mais il y a les églises méthodistes du sud de la France qui proviennent d'une évangélisation d'Angleterre, ou plus exactement des îles anglo-normandes. Hein. Vous savez que les îles anglo-normandes sont des îles anglaises, mais à l'origine où on parlait français. Hein. Et là, c'est notamment Charles Cook. Et qui sont venus au 19e siècle et qui ont prêché le réveil et souvent ils n'ont pas été acceptés par l'église réformée, ça a créé des églises méthodistes. Hein. Alors ça vient d'une action venant d'Angleterre et ensuite avec des pasteurs français. Et puis vous avez les églises méthodistes en Alsace qui elles viennent d'une évangélisation des méthodistes d'Amérique. C'est pour ça qu'il y avait deux associations méthodistes, hein, et les églises, là aussi, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est la cuisine interne méthodiste, les méthodistes alsaciens ont un évêque, parce que les méthodistes en Amérique ont des évêques, alors que les méthodistes du Midi à Montélimar ou ailleurs ne sont pas d'évêques, parce qu'ils viennent d'Angleterre où il n'y a pas d'évêque.
C'est rigolo à Montélimar, l'église méthodiste, elle s'appelle EEM. Et puis on était là-bas, puis on dit la semaine prochaine, l'EEM va venir nous trouver. Donc c'est église évangéliste méthodiste.
Et
nous on s'appelle EEM.
Oui.
Je lis de John Stott la foi évangélique.
Oui.
Et lui, il se met à. Comme anglican dans les évangéliques.
Oui, tout à fait. Lui, c'est même le chef des évangéliques. Ben oui, mais justement. Le mot évangélique, c'est ça. C'est très important. Dans notre discussion avec l'Église réformée, on dit il y a les réformés et les évangéliques. Moi, je suis un évangélique réformé ou un réformé évangélique. Être évangélique, c'est pas être dissident. C'est croire à la parole de Dieu. Hein, et fait les vrais, enfin à mon sens, on est entre nous, je peux lire, les vrais évangéliques réformés, ou les vrais réformés sont les réformés évangéliques. Pourquoi Calvin a renvoyé Sébastien Castellion? On le reproche beaucoup à Calvin. Castellion était un grand personnage, hein, mais Calvin l'a renvoyé, a refusé qu'il soit pasteur à Vendeuvre, parce qu'il avait posé sa candidature pour être pasteur à Vendeuvre. Et Calvin a refusé. Pourquoi? Parce que Castellion mettait en doute l'inspiration du Cantique des Cantiques. Et il dit non, Cantique des Cantiques, c'est une œuvre, pas érotique, mais une œuvre d'amour, ça n'a rien à faire dans la Bible. Hein. Et il mettait en doute, pour Calvin, c'était intolérable. Mettre, ne serait-ce que le Cantique des Cantiques, en doute, comme l'inspiration de Dieu, on ne peut pas être pasteur. Aujourd'hui, si on renvoyait de Genève tous les pasteurs qui mettent en doute l'inspiration du Cantique des Cantiques, il en resterait comme là. Parce que Calvin, justement, c'était l'autorité de la parole de Dieu est totale. Et c'est pour ça que la grande tradition réformée est une tradition évangélique. Et puis, il y a les évangéliques au sein de l'Église réformée, puis il y a des évangéliques au sein des églises dites évangéliques. Et John Stott est l'exemple classique d'un évangélique dans l'Église anglicane. Hein. Il a même été aumônier de la reine d'Angleterre. Hein. Donc plus establishment, tu meurs. Hein. Il a été aumônier de la reine d'Angleterre pendant de très nombreuses années. Hein. Mais il est un évangélique classique, hein. Alors c'est même le maître à penser des évangéliques.
On a parlé des églises méthodistes. Quand il y a eu ces premières prédications en plein air, ces grandes conversions, les gens allaient où? Est-ce qu'ils ont tout de suite créé cette nouvelle église méthodiste, ou est-ce qu'ils ont essayé de rejoindre? Moi, je disais qu'à Kingswood, je crois qu'il n'y avait pas d'église, justement. Qu'est-ce que ça s'est passé?
Ben, ils allaient dans ces classes. Mais Wesley a toujours, on aurait pu en parler longuement, Wesley n'a jamais quitté l'église anglicane. Et toute sa vie, d'ailleurs comme Calvin, il espérait la réforme de l'église catholique dans laquelle il était né. Hein, et s'il a créé l'église réformée, c'est parce qu'on l'a foutu dehors. Et Wesley, toute sa vie, jusqu'à sa mort y compris, a toujours revendiqué d'être un pasteur anglican, et ce n'est qu'après sa mort que l'église méthodiste est devenue une église séparée de l'église anglicane. Ils allaient dans des locaux, etc., d'abord dans des maisons, comme dans l'église primitive, hein. Puis petit à petit, ils ont construit des chapelles, etc.
Question. Vous pariez que c'était la première fois qu'il y avait des prédications extérieures, mais en Ardèche, dans le désert, c'est aussi parce que c'est plus tard au niveau de la...
Oui, c'est bien. C'était d'ailleurs à peu près à la même époque. Hein. Les assemblées du désert, hein, c'était aussi au XVIIIe siècle, c'était à peu près à la même époque. Ça c'était dû à la persécution officielle alors justement. Et d'ailleurs les pasteurs de Genève ont beaucoup lutté contre les camisards, hein. Mais enfin il y a quand même eu ces assemblées clandestines, mais elles étaient clandestines. Celle de Wesley n'était pas clandestine, hein. C'était 40 000 personnes, ça prenait du monde. Alors pour finir, d'ailleurs c'est intéressant, c'est très anglais d'ailleurs, il y a eu une sorte de modus vivendi, hein. Ils n'ont jamais été persécutés comme les huguenots, hein. Il y a eu des brimades, il y a eu etc., mais il n'y a jamais eu la persécution comme les huguenots, hein. C'est pour ça que c'était quand même toléré, hein. Même si ensuite on essayait d'introduire des vaches ou autre chose. Alors j'ai amené avec moi, vous voyez là quelques livres, que nous avons écrit avec ma femme, que je vous recommande, on ne peut pas ne pas être recommandable. Le dernier que nous avons sorti juste avant Noël, pour on a parlé des mères comme Suzanne Wesley, hein, on a parlé des pères aussi, des parents, pour tracer la route à nos enfants. Un livre pour les parents ou les grands-parents, hein, tracer la route à nos enfants, à la fois témoignage et réflexion. Et puis ce livre-là, qui se veut à mettre entre toutes les mains, le secret de famille dévoilé. C'est quelque chose d'assez, très actuel, hein, sur les secrets de famille. Hein. Comme un secret de famille dévoilé, c'est sous forme un peu romancée, mais voilà, je vous recommande, et puis je vous rassure.
Voilà, donc vous serez invité effectivement à vous approcher de la table pour pouvoir voir ces différents livres que Philippe a apportés. Merci encore beaucoup Philippe pour ce que tu nous as apporté ce soir. Je profite encore de peut-être de faire une petite annonce simplement pour aussi appeler Philippe. Donc la prochaine fois nous nous retrouvons ici mercredi prochain à 20h15 pour parler là du réveil de Genève. À cette occasion-là, nous montrons aussi une petite exposition de la Société évangélique depuis longtemps, une exposition de quelques panneaux sur ce réveil de Genève. Et nous allons profiter de la montée pour qu'elle soit visible. Nous la montrons dès ce vendredi, parce qu'on aura aussi le capter en lien avec ça ce vendredi. Et puis elle sera en place ce week-end. Philippe nous rejoindra ce dimanche pour la prédication. Tu la verras, elle sera là.
Oui, j'y ai contribué, elle est donc très bien.
Yeah. Merci. Elle sera là encore mercredi prochain. Encore dimanche prochain. Voilà,
ce
sera pas
surpris. Merci, c'est bien, oui. Ben, je me réjouis parce que c'est une exposition qui est de grande valeur qui avait été faite pour le musée de Poix-Laval.
Oui. Voilà. Merci encore pour les chansons, pour le regard qui est à l'origine de ce projet qu'on a essayé de mettre en place. Voilà, je vous souhaite en tout cas à tous une bonne fin de soirée. Merci encore notre orateur de ce soir. Bonne rentrée à chacun et puis n'hésitez pas encore à prendre un petit moment pour venir discuter peut-être avec Philippe, voir les livres et puis partager un petit moment. Bonne rentrée, bonne soirée et à tout bientôt. Merci.